Bonjour et bienvenue sur Will Do More, le podcast qui donne envie d'en faire plus. Full sagesse, full succès, full XP, le podcast animé par la volonté. Et aujourd'hui, on reçoit Irvine. On dit bien Irvine, on est d'accord?
On dit bien Irvine.
Quand je t'ai rencontré au début, il y a eu plusieurs fois où j'ai mal prononcé ton prénom et ça me fait chier de l'écorcher parce qu'on a moi-même souvent écorché mon nom de famille. Donc Irvine, est-ce que tu souhaites te présenter à ceux qui nous écoutent, à nos chers auditeurs?
Bien sûr, déjà je vais commencer par te féliciter. Parce que si j'ai bien compté, on est à ton 20e podcast. Et tu sais très bien ce que je vais dire, que quand tu fais 20 podcasts, tu es dans le top 1% des podcasteurs. Donc, tu as été jusqu'au bout. Là, maintenant, c'est que du kiff. Et je suis content d'être ton 20e mérite.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc, pour ceux qui auraient des doutes, qui écoutent à partir de la saison 3, j'avais déjà commencé les podcasts en 2020 ou 21, je crois, 2021 probablement. Et donc, vous devez vous dire qu'il n'y a pas 20 podcasts, il y en a 11, 12 ou 13, quelque chose comme ça. Mais c'est que Irvine a même écouté ceux des saisons précédentes que je vous invite à aller écouter, qui sont,
genre,
quand moi je les réécoute, un peu cringe parce que c'est le Lucas d'avant avec l'expérience d'avant. Mais c'est toujours un plaisir de recevoir ce genre de compliments, je te remercie. Comme d'habitude, on ne va pas rater la tradition. Est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui nous écoutent ce que tu fais, qui tu es, pourquoi je te reçois sur ce podcast, quelles sont tes activités, etc.
Avec plaisir. Donc moi, si je devais me définir, je fais pas mal de choses. Mais un peu comme Lucas, en fait, je me suis lancé à mon compte et je fais plusieurs choses. Donc je suis bodybuilder. J'ai fait ma première compétition en mai 2020, en mai de cette année. Donc là, c'est première compétition en naturel. J'ai fait du main physique et je suis arrivé dans le premier call-up. Donc, une très bonne première compétition. Ça fait 4 ans que je fais de la muscu et puis directement tombé dedans. Et je voulais arriver à cet aspect compétitif-là. En parallèle de ça, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Discipline Athletics. Je pense qu'on va en parler plus tard, mais c'est une marque que j'ai fondée alors que je ne suis pas du tout connu. Et le but, c'est justement de pas attendre en fait, d'être connu pour lancer une marque, mais de commencer directement avec quelque chose de plus grand, quoi.
Bah écoute, c'est une très bonne description. Moi, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je t'invite. Alors désolé pour les auditeurs, je bouge un petit peu mon micro. Voilà. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je t'invite. La première, c'est déjà parce que je te suis sur les réseaux. Ça, c'est la raison la plus superficielle. La deuxième, qui est un peu plus importante, c'est parce que tu m'inspires, parce que j'invite des gens qui m'inspirent, parce que j'imagine qu'ils vont probablement par la suite inspirer mon audience. Et ensuite, parce qu'on parle très souvent sur Instagram, j'aime beaucoup ta vibe, j'aime beaucoup comment tu penses. On a beaucoup de points de connexion par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Et je rejoins tout à fait ce que tu dis. Il n'y a pas besoin d'être bon pour commencer. Mais pour être bon, il faut commencer. Et yeah, ça va être une des premières leçons du podcast. Effectivement, tu as non seulement développé ta marque. Donc, est-ce qu'on dit de streetwear, de fitwear? Est-ce qu'on dit juste une marque et...
Franchement, au départ, pour refaire un peu l'histoire de Discipline, on a commencé et on s'est dit, vas-y, on va faire du Gymshark. Parce que c'est ce qu'on voit partout, c'est ce qu'on voit dans les salles. Et là, je t'aurais dit, bah écoute, Discipline, c'est de l'active wear. C'est vraiment du truc, tu vois, du muscle fit, un peu comme MyProtein fait en ce moment. Et ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, on a changé totalement la DA, le type de design qu'on présentait. Et maintenant, je pense que je peux définir ça comme d'athleisure. C'est genre entre le fitness wear, enfin, entre le active wear et le street wear. Donc, je n'ai même pas de t-shirt là. De toute manière, on ne le verra pas, mais c'est entre les deux.
OK. Ensuite, sur la partie entraînement, bodybuilding, etc., tu es aussi très inspirant parce que tu as fait des compétitions. En tout cas, je ne sais pas si tu as fait une ou plusieurs compétitions, je sens que tu en as fait une pour le moment.
Ouais, j'en ai fait qu'une, c'était.
Mais il faut savoir pour les gens qui nous écoutent qu'énormément de gens sont passionnés par le body. En 2023, bientôt 2024 d'ailleurs, énormément de gens sont passionnés par le fitness, aller à la salle, l'entraînement, etc. Mais quel est le pourcentage de gens qui vont aller jusqu'en compétition? Parce que vous envoyez des beaux physiques sur TikTok, vous envoyez des mecs qui ont une belle génétique, un peu de chance et potentiellement un peu de produit, mais aller sur scène, se mettre en slibar, faire un posing, essayer de préparer pendant 6 mois en ayant mangé un déficit calorique, c'est pas facile. Et je trouve ça très 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 inspirant de te voir faire ce genre de choses qui sont justement difficiles, de te mettre dans l'inconfort. Et on en parlait un petit peu sur Instagram en privé, que toi et moi, on a un peu cette recherche justement parmi l'inconfort de la discipline, de faire ce qu'on n'a pas envie de faire, mais de le faire quand même. Et je pense que la victoire en est d'autant plus belle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton ressenti sur cette préparation pour ta première compétition? Quelles étaient tes attentes et qu'est-ce que tu as ressenti après dans le réel?
Ouais, bien sûr. C'était fou. C'était fou et ça allait assez vite. En fait, quand j'ai commencé, j'ai pas commencé la muscu par hasard, entre guillemets. J'étais tombé sur des gars qui faisaient déjà de la compétition. Et donc, dès que j'ai commencé la muscu il y a 4 ans, 4 ans et demi, j'avais cette, euh, cette fibre compétitive. Je me suis dit, un jour, je monterai sur scène. En fait, j'ai commencé la muscu en me disant, c'est sûr que je vais monter sur scène parce que je regarde des gars qui montent sur scène, j'ai envie d'avoir la vie qu'ils ont, entre guillemets, donc ça m'inspire, donc j'ai envie de faire pareil. Et bon, évidemment, quand tu commences, tu n'as pas le physique pour. Donc j'ai mis du temps, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Et en 2023, je me suis dit, OK, bon, là, tu as fait assez de temps d'entraînement, donc il va falloir que tu te lances. Il va falloir que, comme tu dis, tu ailles dans l'inconfort et que même si c'est difficile, même si tu vas te faire taper, même si tu n'es pas le meilleur sur scène, pas le plus gros, pas le plus sec, tu vas y aller. Donc, début 2023, je ne savais pas trop laquelle j'allais faire. J'allais faire une compétition qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, normalement, la Heroes Cup. Je voulais faire celle-là, la WNBF. Et j'étais en prise de masse et j'en avais marre de manger. J'ai fait une semaine de maintenance et je me suis dit, OK, c'est trop bien en fait. J'arrête de manger et je prête. Donc j'ai commencé d'un coup. Je ne me suis pas lancé et ça, c'est un truc sur lequel on est d'accord, Lucas. C'est en fait, si tu attends d'être prêt pour faire une compétition, si tu attends d'être dans les bonnes conditions, si tu attends d'avoir un job stable, tu l'auras jamais. Et tu
En
seras
fait,
toujours
je.
trop.
Pour,
Trop
pas
ça.
pour t'interrompre, mais pour rebondir sur ce que tu dis, je crois qu'il y a une importance fondamentale à la confrontation. C'est-à-dire que tous les moments dans votre vie où vous allez choisir de ne pas vous confronter, vous n'allez pas croître, en fait, tout simplement. Je vous prends des exemples, du coup, là, avec Irvine qui parle de compétition sportive, mais ça marche avec l'entrepreneuriat, ça marche si vous avez un projet, ça marche pour aller parler à cette fille à qui vous voulez aller parler ou à ce garçon, ça marche pour annoncer quelque chose à ses parents, ça marche pour absolument tous les domaines possibles, et même dans le côté négatif, quand on veut quitter quelque chose, quand on veut partir, quand on veut changer, par exemple, changer de pays, comme j'ai pu le faire, etc. Ou Irvine qui nous en parlera un peu plus tard, mais qui décide de ne pas prendre le chemin décrit par ses études à l'origine, mais d'entreprendre, on en discutera. Donc c'est très important, et après je te laisse finir sur la compétition Irvine. Il faut vous confronter, non pas seulement quand c'est possible, mais à chaque fois que vous en avez l'occasion. Et quand la vie vous donne une chance de faire quelque chose de difficile, d'inconfortable, qui va vous confronter au regard des autres, à la compétition, qui va vous confronter à tout simplement à devoir vous comparer, parce qu'en 2023, c'est quelque chose qui est très blâmé, il faut pas se comparer aux autres, non, 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 c'est pas bien. Mais en fait, si, comparez-vous, comparez-vous,
Ouais,
comparez-vous à 100% du temps.
devenez meilleur, comparez-vous au meilleur et devenez meilleur, rapprochez-vous d'eux.
Exactement. Donc, je finis là-dessus. Deuxième leçon du podcast, lorsque vous avez l'opportunité de vous confronter à quelques difficultés ou compétitions que ce soit, faites-le parce que vous allez en sortir plus grand, plus intelligent, plus fort, et ça peut que vous apporter du bien. Donc, je te laisse finir pour la compétition, Erwin.
Avant de revenir, tu as super bien rebondi avant de revenir sur l'histoire de la compétition et l'expérience et comment je l'ai ressenti. Quand vous allez vous lancer, ou quand vous pensez que vous devez vous lancer, c'est-à-dire quand tu dois te confronter, tu auras un espèce de gut feeling où tu seras anxieux un peu. Tu as cet inconfort, cet inconfort. Et en fait, ça, là, ce signal, c'est vraiment le signal qui fait que tu dois y aller. Quand tu l'as parlé, quand tu vois une belle fille et que tu as envie d'aller approcher, t'es là, tu sens ton cœur te serrer, tu sens l'intestin un peu se resserrer, il faut que tu ailles. Parce que c'est le seul moyen de casser la peur. Pour la compétition, si tu dis, ah ouais, j'aimerais bien, mais ça me fait peur, je ne sais pas si je serais bien, tu vas. Tu réfléchis pas, tu vas. Et tu me
Et
dis
puis,
3, 2, 1, tu go.
il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que moi je discute avec pas mal de bodybuilders sur Instagram, il y en a eu plusieurs sur ce podcast déjà pour ceux qui écoutent fréquemment, et il y a un truc qui revient souvent, si vous avez écouté les podcasts, il n'y en a pas un qui dirait l'inverse, aller en compétition, c'est de toute façon, en tout cas en tant que débutant, le meilleur moyen de savoir quels sont tes points faibles et d'en faire des points forts. Parce que oui, ça sert à rien d'aller en compète si t'as même pas une chance de faire un top 50, même si des fois il n'y a pas 50 compétiteurs, mais vous m'avez compris, si vraiment t'es une plume et que t'as rien à faire sur scène, c'est débile. Par contre, si t'as un niveau débutant moyen, aller sur scène et te prendre une claque, ça peut soit être le wake-up call, c'est-à-dire le truc qui va te réveiller et faire que tu vas devenir une machine de guerre parce que tu vas tellement mal prendre ta défaite que tu vas rebondir, et c'est arrivé à plein de très grands athlètes dans un nombre de sports incalculable. Mais c'est aussi un bon moyen quand tu as un très bon niveau, dans tous les cas, et bah quand même de te prendre une petite tape derrière la tête et dire ok, bah en fait j'ai un déficit au niveau des ischios que je vois jamais parce que je regarde jamais mes ischios, j'ai un problème sur l'arrière d'épaule, et puis dans d'autres sports qui sont différents, ça pourrait être un déficit technique. Si vous voulez faire une compétition, je sais pas moi, de une joute verbale ou ce que vous voulez, bref, la compétition, même si c'est assez décrié aujourd'hui parce qu'il faut surtout pas se comparer comme on le disait avant, bah en réalité, c'est le meilleur moyen de comprendre quels sont nous nos défauts. Sans parler du fait que les autres soient meilleurs ou moins bons, ça permet de se remettre en question, de retravailler sur soi, et c'est toujours une belle opportunité à saisir, je pense.
Tu parlais de compétition verbale, mais c'est comme le podcast en fait. Imagine, tu penses que tu sais pas trop bien parler en public. Top, là, le fait de faire un podcast et derrière de le réécouter, de l'éditer, bah ça, c'est justement le fait de se lancer dans le truc. Et peut-être tu prendras des claques parce que tu auras deux, trois auditeurs. Mais c'est pas grave, parce que derrière,
D'ailleurs,
tu réécoutes et commences.
parlons-en. Tu m'as fait une très très belle passe au centre. Alors je regarde pas le foot, mais
Ouais.
j'espère que mon expression est plus ou moins comprise. Ceux qui écoutent ce podcast, si vous appréciez les contenus de ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, bien
5 étoiles,
évidemment.
bien
Et il y
sûr.
a quelque chose qui m'a très frustré. Je vais vous inviter à faire autre chose. Allez vous abonner à Erwin, qui nous a pas donné ses réseaux sociaux. Parce que je le rappelle, quand il s'est décrit, il vous a dit qu'il était bodybuilder naturel. Il vous a dit qu'il avait une marque, mais quelque chose qu'il vous a pas dit, ça m'énerve grandement. Il est créateur de contenu.
Oui.
Il a un compte Instagram avec, je sais pas si c'est bientôt, si on les a franchis, mais 1000 abonnés.
On vient de les franchir, là, il y a
Voilà.
une heure et demie. On vient
Donc,
enfin de franchir les 1000 abonnés. Et grâce à vous, j'espère
félicitations.
un peu. Merci.
Et il a aussi une chaîne YouTube avec d'excellentes vidéos
Chaîne.
qui a déjà combien en plus?
Là, j'ai 1250, je crois, quelque chose comme ça, sur YouTube aussi.
Et ça, c'est fou parce que YouTube, c'est tellement difficile à grind.
C'est
Donc,
trop
les
dur.
gars, allez vous abonner. Est-ce que tu peux nous donner ton arrobase en les
Yep.
plans?
Donc, at Irvin, IRWIN, tiré du bas, FLX, pour Félix.
Voilà, donc
Le nom
très
de famille
important.
est facile à prononcer.
Contrairement au mien.
Non, mais toi, c'est l'inverse, tu vois.
Donc, allez vous abonner du coup à la chaîne d'Irvine parce que dans ses vidéos YouTube, il y a un petit peu de Christian Guzman
Du
vibe.
Guzman,
Il y
du.
a du Guzman.
Ah, il y a du Guzman. On en parlera, mais il y a du. Il y a du Guzman. C'est d'ailleurs un des gars qui m'a fait commencer. Il m'a fait commencer. On finit sur la prépa ou pas?
Ouais,
J'ai
est-ce
fait.
que tu peux nous dire du coup les leçons que t'en
Ok.
tires, comment ça s'est déroulé?
C'était donc du coup très dur. J'avais pas beaucoup de temps parce qu'il faut savoir que c'est long, une prépa. C'est pas juste le show day. À moins que tu sois déjà très très sec, mais ça généralement c'est pas le cas. Et j'avais fait une assez grosse erreur de bulky comme never. Donc je savais combien j'avais à prendre, mais je voulais arriver décent sur scène. Donc je me suis dit, pas de choix, mon gars. T'as 16 semaines, il faut que tu perdes à peu près 25 kilos. J'ai fait. J'ai perdu 22 kilos. Non, 20, ouais, 22 kilos au plus bas en 16 semaines et demie. Donc, ultra hardcore. Vraiment, je suis passé de une semaine où j'étais à 3000 cales. Non, mais 4000 cales. La semaine d'après, j'étais à 2000. C'était vraiment terrible. Ça a fait très mal. Mais encore une fois, c'est ce qu'il fallait faire. C'était nécessaire. Je savais que j'avais pas d'autre choix que de faire ça. Et la prépa, une des principales leçons, c'est de dire, OK, peu importe comment c'est difficile, en fait, tu te donnes la preuve que tu peux le faire. Et tu te donnes la preuve aussi que, ouais, peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances, tu as toujours un peu plus. Tu peux toujours aller chercher plus. Tu peux toujours perdre un kilo de plus. Bon, à un certain moment, il faut pas. Mais tu peux toujours t'entraîner dur, même si tu n'as aucun carbs dans le corps. Tu peux toujours aller chercher tes pas. Tu peux toujours marcher, même si ça te fait mal de te lever en fin de prep, même si tu as froid, même si tu n'as pas envie d'aller à la salle, tu peux le faire. Et ça, tu te donnes la preuve. Et le challenge mental est assez incroyable.
Il y a un truc qui revient très souvent en coaching. Alors j'ai deux anecdotes à raconter par rapport à ça. La première, c'est que ceux qui l'ont suivi sur Instagram, YouTube, etc., récemment, je me suis mis à courir, à développer un entraînement hybride. J'ai couru 100 km en une semaine, etc. Et au-delà du flex que c'est de pouvoir le dire, il faut bien comprendre que, en faisant référence à ce que dit Irvine, c'est un flex de pouvoir se prouver qu'on peut le faire. Parce que le fait que vous ayez vu que je le fasse, je sais pas si c'est français, on m'a compris. Le fait que vous me voyez le faire, l'accomplir, ça c'est quelque chose de gratifiant. Mais le fait de moi savoir que je me suis prouvé que j'avais raison, que je suis allé au bout, ça augmente ma confiance en moi. Parce que, comme le dit très souvent Raptor, la confiance en soi est un dérivé du produit, comment on dit, de la compétence. Voilà, c'est un dérivé de la compétence. C'est l'accomplissement. On ne devient pas confiant en se répétant des choses devant son miroir, même si ça peut participer. J'ai eu pendant longtemps l'envie de faire des longues listes de gratitude, de me dire des choses positives devant le miroir, etc. quand j'ai commencé l'entrepreneuriat vers 2020-2021. Les gars, c'est en faisant qu'on devient. Il n'y a pas de raccourci.
Confrontez-vous. Confrontez-vous.
Voilà. Et du coup, deuxième anecdote, donc ça c'était pour dire, tu as tout à fait raison, de toute façon c'est en faisant qu'on trouve la confiance en soi et qu'on trouve l'envie d'en plus, en faire plus. Parce que quand on avance dans le process et que c'est difficile, on se dit non, mais maintenant que je suis à 70%, je peux pas
Ah,
abandonner
je peux
maintenant.
pas.
Donc, tu vois, quand j'avais couru du coup 80 km sur les 100, j'avais la cheville en vrac, j'étais fatigué, j'avais
Ouais,
mal
quand
partout.
on va parler, ouais.
Et en fait, c'est encore pire. J'avais encore plus l'envie de finir parce que tu te dis putain, mais je suis allé jusque-là, je vais pas m'arrêter maintenant. Et deuxième anecdote, du coup, qui fait vraiment référence à ce que tu dis, je dis très souvent aux gens que je coach en coaching physique, parce que je les tue, que je souhaite élever
Tu
leur
vas bien?
standard dans les moments difficiles. Je souhaite qu'à la fin de la séance, ils aient envie de vomir, qu'ils soient cassés de partout, etc. Pas parce qu'il faut faire ça à chaque séance par rapport à la science, c'est pas toujours intelligent, mais parce que du coup, je sais que si ils arrivent à se mettre dans un état mental et physique de performance lorsque les temps sont extrêmement difficiles, qu'ils sont super fatigués, qu'ils n'ont pas eu leur café, que la journée a été longue, qu'au travail c'était dur, qu'ils sont stressés, que le bébé pleure toute la nuit, que machin, que truc, alors qu'est-ce que ça va être quand ils seront en forme, qu'il fera beau dehors et que tout ira bien?
Tuerie, une tuerie.
Et c'est ça qui est important, c'est que toi, dans ta prep, quand tu vas au bout, que t'as pas de carbs, que t'as les joues qui rentrent à l'intérieur de la mâchoire, que tu vois flou et que t'arrives quand même à faire une putain de série au leg press et que tu te mets dans le mal et que tu fais un des meilleurs leg day de ta vie, bah qu'est-ce que ce sera quand tu auras des calories, que tu seras en forme et que tu seras pas en
Ça
prep?
te donne la preuve que quand c'est difficile, tu peux le faire et que ça ne te tue pas. Ça ne te tue pas. Et tout ce qui, je vais mettre, mais tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Il y a les choses simples en mode les trucs clichés, genre ouais, ok, tu t'habilles comme ça va pas te tuer. Il y a aussi les trucs en mode ok, là, c'est difficile. Tu pensais que tu n'arrivais pas à le faire. Quand tu as 80, quand t'es à 80 km et que tu as la mâche, enfin, t'as la cheville en feu, pardon. je repense à ma jawline de prep, bref. Et que tu as la cheville en feu, mais que tu te dis, tu vas chercher tes 20 km, bah, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout simplement. Tout simplement.
Et puis, du coup, ça, c'est une phrase qui est revenue dans le podcast de Nick Baer, mais je crois qu'il y a aussi Alex Hormozzi qui l'avait reprise. C'était juste le fait de prove yourself right. Donc, désolé pour mon accent anglais, des fois je fais un effort, des fois non. Mais se prouver qu'on a raison, c'est quand même un truc extrêmement important parce que plein de gens vous diront de ne pas faire ces choses-là. La plupart des gens vont juste écouter leur cerveau primitif et vous savez que c'est combattre ou fuir. Et c'est tellement plus facile de fuir. Donc, une compétition de bodybuilding, non, la fais pas, regarde, tu vas pas te mettre en slip devant tous ces gens, en plus c'est difficile. Oh, mais tu peux pas manger que des
T'as ton
brocolis, c'est pas
tas,
ça.
il y a trop de trucs à gérer, la vie sociale.
Par contre, c'est correct de fumer toute la journée, c'est correct de boire de l'alcool, c'est correct de se mettre des mines en soirée.
Et la société.
Donc, pour revenir du coup sur cette prep, quelles sont les leçons fondamentales que tu en tires si tu devais en donner quelques-unes par exemple?
Celle-là, celle dont on a parlé, le fait de se prouver que c'est possible, que peu importe ce qui se passe, ouais, tu peux faire les choses, tu peux aller plus, tu peux aller plus loin. Et que j'ai fait une bonne réalisation. Bon, il s'est passé pas mal de trucs pendant la prep qui auraient pu me faire totalement vriller par rapport à des relations, par rapport à plein d'autres choses. Mais le fait d'avoir de la bonne dopamine, c'est un truc qui m'a fait. Ça m'a fait grosse réalisation, tu vois. Je me suis dit, ok, putain, j'ai tellement travaillé dur pour arriver à ce moment que sur scène, en fait, après, tu ressens même pas la douleur. T'es juste. T'es tellement fier de toi. En fait, t'es fier. Et pourquoi t'es fier? Certes, parce que t'as fait tout ce travail, mais t'es fier parce que t'as pas abandonné. Et c'est fou.
Donc
Grandi, quoi.
au final du coup une des leçons c'est peut-être que la victoire est pas toujours importante et de se concentrer sur le process et le chemin qui t'a mené jusqu'au bout en fait et
Toujours.
que la victoire c'est d'avoir mené à bien cette prep. On en avait parlé aussi avec Amaury qui me disait ça. Alors évidemment on se prépare pas à une compétition pour faire dernier ni deuxième, on se
Bien
prépare pour
sûr,
être premier,
bien sûr.
mais on tire quoi qu'il arrive une certaine gratification de tout ce process, le fait d'être allé au bout, le fait d'avoir pendant 6 mois mangé des courgettes vapeur, là. J'abuse un peu évidemment, j'extrapole, mais
Non, non, tu trouves pas. Petite stat intéressante. Petite stat intéressante. En 17 semaines, j'ai fait le calcul, j'ai mangé 17 kilos de salade.
oh.
Vous imaginez le volume.
Donc le mec est devenu un lapin, mais du coup
Exactement.
c'est quand même important de se souvenir, même si ça peut paraître un peu fleur bleue, etc., que bah, évidemment le bonheur c'est dans le chemin, pas dans l'arrivée, etc. Que L'objectif, c'est cool, mais le plus important, c'est le process qui nous mène à l'objectif. Mais c'est juste un fait. Et en fait, bah, il n'y a que les compétiteurs et les gens qui mènent à bien, pardon, des grands projets qui peuvent vous le dire. Et Irvine est en train de vous l'expliquer. En réalité, il aurait pu me dire, bah, moi, ce que je retiens, c'est que je suis arrivé sur scène, j'ai fait telle place, bah, ça me fait chier, nanana. Et au final, il vous dit, bah, j'en tire du positif, j'ai travaillé dur, je suis arrivé au bout, et c'est ça dont je suis fier. Mais est-ce
Et
qu'il y a
non.
quand même une envie de revanche, d'une autre compétition?
Ouais. Ah, mais ça c'est certain. Ça, c'est certain. Je ne sais pas encore quand, parce que j'ai envie de. En fait, quand j'ai envie de revenir, j'ai envie de tout détruire. Quand tu vois, quand tu parlais de la claque, de se dire, OK, quand je reviens, je détruis tout. Je reviens, je détruis tout. Vraiment. Donc, là, je suis en train de me dire, je pense, début 2025, je fais une grosse saison. Et je vais le plus loin possible. Mais vraiment le plus loin possible.
Déjà, vous voyez dans son discours qu'il y a une réflexion parce qu'il vous dit pas 2024. Ça, c'est un mec qui a envie de grind. Parce que s'il vous dit 2025, ça veut dire que tout 2024, ça va être la plus grosse prise de masse de sa vie. Il va monter.
Exactement.
Donc,
J'arrive, indéniable.
ça, c'était pour la partie bodybuilding. Puis du coup, merci de nous avoir partagé tout ça, toute cette expérience. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de deux choses, à savoir ta marque et ta chaîne YouTube, qui sont de toute manière intrinsèquement liées. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est l'origine de cette ambition? Parce que, avant que tu le dises, je sais que sur ce podcast, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont envie de faire des choses. Moi, j'ai dans mon audience des gens qui m'envoient des DM, qui répondent à mes stories, etc., ou qui posent des questions, qui disent: qu'est-ce qui t'a fait commencer l'entrepreneuriat? Comment on fait pour se lancer? Comment tu trouves tes idées? Qu'est-ce que truc, qu'est-ce que machin? Et moi, j'aimerais leur faire comprendre que, en fait, c'est pas quelque chose d'inné, c'est du travail, certes, mais qu'à la base, bah, on s'inspire de certaines personnes. On n'a rien inventé. En 2023, tu peux pas inventer quelque chose à moins d'être un grand scientifique. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a fait te lancer? En quelle année? Et où est-ce que ça en est aujourd'hui?
En fait, je vais commencer peut-être pas par la chaîne YouTube ou par la marque, mais tu verras, ça sera lié par rapport à la discipline. En gros, avant j'étais fat. J'ai pas peur de le dire, tu vois, j'étais à ce poids-là, mais full gras. Donc pas la bonne composition corporelle. Et j'en avais tellement marre de moi, genre de comment j'étais, que en 2019, fin 2019, je me suis dit, mec, je fonctionne beaucoup en tout doux. Donc en fait, je me suis dit, le 1er janvier 2020, ouais, le 1er janvier 2020, 2020 ou 2019? 2019, pardon. 2019, tu vas faire du sport tous les jours. En 2019, tu vas faire du sport tous les jours de ta vie, tous les jours de l'année. Et j'ai commencé, j'étais un gros runner, je courais 50 km par semaine et je perdais du poids. Je perdais du poids et je commençais à prendre confiance en moi. Et j'ai découvert la salle en fait en août de cet été-là, donc août 2019. Et j'avais déjà eu la preuve que bah, je pouvais changer mon corps. J'étais passé de 85 à 69 kg, tu vois, full cardio, full sec comme jamais, zéro muscle sur moi. Et là, on arrive aux inspirations de la chaîne YouTube, aux inspirations de la marque, aux inspirations de la muscu. Je suis tombé sur un groupe de gars sur YouTube, et notamment Christian Guzman, qui est le fondateur de Alphalete. Enfin, vous avez sûrement entendu parler si vous avez regardé le podcast avec Arthur Gaines, mais il en parle déjà beaucoup. Mais pour moi, c'est le gars qui m'a fait dire, OK, là, moi, je me suis donné 6 mois et j'ai changé un peu ma vie. Et là, ce gars-là, il a une vie que j'aimerais bien avoir. Si j'ai changé ma vie, c'est que je peux aller vers quelque chose que je veux. Et c'est là où il y a la discipline qui arrive. C'est en fait la discipline que la muscu t'apporte. Moi, ça a été la plus grande réalisation de ma vie, tu vois. La discipline que la musculation t'apporte, c'est même quand t'as pas envie, tu le fais. C'est difficile, mais tu deviens plus fort, littéralement, mais aussi mentalement. Et aussi, eh ben, c'est cette discipline-là qui te fait avoir des résultats. Parce que si tu vas qu'un jour sur deux, tu vas que quand c'est bien, tu n'auras jamais de résultats. C'est pour ça que la marque s'appelle Discipline. Et donc, c'est un peu né de tout ça. Tu vois, je suis arrivé directement dans la muscu avec des gars qui étaient ambitieux, des gars qui avaient leur chaîne, des gars qui montaient leur business, des gars qui poussaient le game plus loin que simplement ah, je fais des curls et je baise les meufs. Donc, ça, c'était pas du tout le. Pas du
Je
tout l'ambition. Ah, vas-y.
te mets sur pause une seconde parce que je sais que tu aimes beaucoup Alex Hormozi et je voulais te parler d'une citation que j'ai déjà mise sur Insta et que je sais que cette citation te plaît aussi énormément. Par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, c'est toujours important. Tu viens de dire, en gros, tu as travaillé 6 mois, tu as eu un résultat, ça a changé ta vie. Qu'est-ce qui se passerait si tu travaillais 6 mois de plus, 1 an, 2 ans? Et il y a une très très bonne citation d'Alex Hormozi, c'est: If you can wait a year, you can win big. If you can wait a decade, you can be the best. If you can wait a lifetime, you can change the world. Ça veut dire si tu peux attendre un an, tu peux avoir une grosse victoire. Par exemple, une transformation physique. Ok. Si tu peux patienter 10 ans, tu peux être le meilleur dans un domaine. C'est-à-dire pendant 10 ans, tu travailles. Peut-être que tu seras le mec qui court le 100 mètres plus vite qu'Usain Bolt, tu vois. Et si tu peux travailler, ou là il dit attendre, mais en réalité par le travail, toute une vie, tu peux changer le monde. Et j'ai un exemple qui vient aussi par rapport à ça. Je sais que pour certains, c'est un exemple bête, mais Thibaut InShape, c'est quand même un gars qui est passé de Dame des gens à 10 millions d'abonnés, des business, etc. Tu vois.
Ah ouais,
Body Time, c'est des bons exemples aussi. Donc c'est juste pour vous dire que il ne faut pas avoir peur du temps, d'être patient et d'investir longtemps dans des projets. Parce que oui, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas en un an devenir des machines de guerre et des millionnaires.
Ah, ça bug. Je
ne
sais pas si tu bugs aussi, mais ça a bugué chez moi.
Ok, bah moi ça fonctionne très bien, je t'entends très bien, tu m'entends?
Ok, très bien, ouais, c'est revenu.
Ouais,
je pense que c'est
désolé
bon.
Pour les auditeurs, il y a eu un petit bug sur le live. Donc du coup, si vous pouvez travailler pendant un an assez dur, vous allez avoir une grande victoire dans votre vie. Si vous pouvez travailler 10 ans, vous serez probablement le meilleur dans un domaine. Et si vous travaillez toute une vie, vous pourrez changer le monde. Donc ça, c'était pour faire un petit aparté, c'est une citation que j'aime beaucoup.
Pour revenir à ça aussi, il y a un truc assez intéressant. Et vous allez, les auditeurs, vous allez comprendre directement si vous êtes un peu ce genre de personne ou si vous allez devoir travailler sur ce skill-là. Ce qui est assez important, c'est, tu vois, effectivement, quand tu attends 10 ans, eh ben, tu as envie d'avoir le résultat que tu veux. Si tu dis dans 10 ans, je veux être telle personne, tu as envie d'avoir le résultat. Mais les gars qui tiennent les 10 ans, ils les tiennent parce qu'ils trouvent d'autres moyens de gagner entre-temps, des petits. Et moi, l'exemple que j'utilise aussi, c'est pendant la prep, j'avais 45 minutes de cardio. Ouais, je l'avais 7 fois par semaine, c'était infâme. Mais en fait, je cassais ces 45 minutes de cardio en bloc de 5 minutes, ou en bloc de 2 minutes, ou en bloc de 10 minutes. Et tu arrives à prendre, ça c'est un skill, ce qui est ultra, ultra important, tu arrives à prendre quelque chose d'énorme et le casser, comme ça. Tu le casses et tu en fais des mini, 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 mini steps. Toi, pour monter ton business coaching, c'est te dire, ok, comment on monte un business coaching? Ah ben, il faut faire telle étape, il faut commencer à se former, il faut monter un site internet, il faut être sur les réseaux. Pour monter une marque de vêtements, bah, du jour au lendemain, ne sors pas ton t-shirt comme ça. Il faut faire quoi? Il faut trouver le nom, trouver le logo, il faut aller chercher les fournisseurs, il faut tester les samples, il faut créer le site internet, il faut faire des shootings. Et seulement après, tu arrives à ton truc. Et en fait, c'est un skill ultra important de voir la big picture, le goal final et ce que tu veux être dans 10 ans, ce que tu veux être à la fin de ta vie, mais te dire, ok, comment je casse ça en petite action tous les jours pour gagner, en fait.
D'ailleurs, à ce propos, ça, c'était une question que je voulais te poser. Quand on était avec Arthur sur le podcast, on n'a pas eu l'occasion de vraiment en parler, mais comment tu fais pour trouver ton premier fournisseur? Parce que j'ai l'impression que c'est un tabou, que c'est super compliqué. Donc, comment ça se passe, ce monde du textile, pour trouver un fournisseur, etc.? Tu n'es pas obligé de nous livrer tes secrets, mais juste le process.
Ouais, bien sûr.
Imagine que quelqu'un nous écoute dans ce podcast, et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, parce qu'il y en a qui m'en ont parlé, et qui veulent lancer leur marque de vêtements, que ce soit du streetwear ou peu importe. Comment on fait quand on n'a pas les contacts et tout? Comment on fait pour trouver un fournisseur?
La réponse simple que je dirais, c'est si tu te demandes comment on fait pour trouver un fournisseur, tu n'as pas fait tes recherches.
Ah, voilà.
Ça. C'est ce que je dirais aux gens, tu vois. Mais je vais en parler. Après, je vais te dire la vraie réponse. Mais si tu as envie de lancer une marque de vêtements, en fait, tu ne te dis même pas comment on cherche un fournisseur. Tu cherches un fournisseur. Tu sais chercher Mando sur Uber Eats. Et tu vas sur Internet, tu marques fournisseur t-shirt, et tu vas tomber sur Alibaba. Et sur Alibaba, alors, à moins que tu sois déjà immense. Alibaba, donc c'est des fournisseurs qui sont principalement chinois. Et là, je parle de chinois parce que quand t'es petit, quand t'as pas une grosse audience, t'es obligé de passer par des fournisseurs en Outre-mer parce qu'en Europe, c'est très cher, mais c'est surtout très grand en minimum de quantité que tu dois apporter. Donc, si tu es sûr de pas vendre 100, 150 unités ou même 500, parce que les minimums au Portugal, ça peut parfois aller jusqu'à 500, tu vois, il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par Alibaba. Donc, tu passes par Alibaba et tu cherches, tu fais tes recherches, t'en as des milliards, et tu testes, t'envoies 10-15 messages, tu vois lesquels te répondent, tu vois lesquels, avec lesquels tu parles bien, avec ceux qui te répondent rapidement, ceux qui te proposent une belle chose, tu vois les reviews, les avis, les photos qui ont été envoyées par les derniers clients, etc. Et ensuite, tu te dis, bon, ok, là, à un moment, il va falloir que je fasse des échantillons, là, c'est vraiment pure business. il va falloir que je fasse des échantillons. Donc, je vais devoir payer un fournisseur pour qu'il me donne pour qu'il fasse une unité de ce que j'ai en tête. Et donc, tu commandes l'unité et parfois, c'est nul. Donc, là, tu te dis, OK, est-ce que le fournisseur, il m'a détruit ou est-ce qu'il n'a pas compris? Et ensuite, tu refais tes rounds, tu fais tes rounds de sample, on appelle ça. Tu fais tes rounds de sample jusqu'à ce que ce soit bon. Et là, tu as un fournisseur. Et ensuite, il faut quand même que tu t'en trouves un peu d'autres parce que tu ne peux pas rester tout le temps avec le même.
Alors,
Mais ça, c'est la réponse.
tu m'as vraiment pas déçu sur ta réponse et ça fait plaisir parce que je connais beaucoup de gens, et j'en ai fait partie avant, qui n'avancent pas dans le processus parce qu'ils sont dans la voiture, ils ont la clé devant le contact et ils te demandent comment on fait pour démarrer. Et c'est insupportable parce que ils savent qu'il y a juste à tourner la clé, tu sais.
Bien
Mais
sûr.
ils le font pas et ils te disent, mais toi, comment tu tournes la clé? Hein, vite, doucement, pas, est-ce que tu la tournes d'un coup? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu bois un café? Les gars, si vous voulez vous lancer, entreprendre, créer un projet, faire quoi que ce soit, une compétition, du merch, YouTube, Instagram, un business, un truc, un machin, arrêtez. Arrêtez de chercher comment commencer. Vous vous mettez devant
Commencez.
votre ordi, vous buvez un café bien noir, vous fermez bien votre gueule et vous commencez à travailler comme un chien. Et en fait, ce qu'il est en train de vous dire, Irvine, c'est que même quand on commence, eh ben, on ne se retrouve pas avec une marque. Vous n'allez jamais de votre vie créer une marque qui fonctionne. Vous allez créer une marque de merde. Et à force de créer des samples de merde, vous allez créer
Exactement.
une marque qui fonctionne.
Exactement.
Vous n'allez jamais de votre vie avoir un physique génial parce que vous allez à la salle. Vous allez avoir un physique de merde et vous allez le construire jusqu'à ce qu'il soit génial en allant à la salle. On ne commence pas en faisant les choses bien. On commence jusqu'à ce que ça soit tellement bien que les gens le remarquent. Et en fait, c'est très important de comprendre que se casser la gueule fait partie du process. Donc, ça serait plus ou moins la leçon 3 ou 4 du podcast. Vous voulez vous casser la gueule. Vous voulez avoir des t-shirts de merde quand vous les commandez. Vous voulez trouver des fournisseurs qui vous déçoivent. Parce que c'est comme ça que vous allez
Exactement.
finir par tomber sur le
Ouais.
fournisseur qui vous convient. Et c'est comme ça que vous allez
Exactement.
monter une bonne marque. Après, il y a un autre point que je voulais soulever avec toi. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast. Et parmi eux, il y en a certains qui vont peut-être se dire, oui, Alibaba, machin. Irvine n'est pas en train de vous dire qu'il faut commander sur des sites chinois. Il est en train de vous dire que vous êtes obligé de commencer petit. Ou
Net.
alors, vous avez beaucoup de chance dans la vie, tant mieux, on vous le souhaite. Mais vous n'êtes pas obligé de commencer en créant Gucci avec du Made in France, etc. Si vous avez les moyens de faire un t-shirt et de le vendre à un ami, et que grâce à l'argent, vous allez en acheter deux, faites-le. Une pomme, deux pommes, trois pommes, un sac. Et en fait, là, le step qu'il vient de vous donner, c'est de commencer petit, d'accepter de faire des erreurs jusqu'à ce que petit à petit vous tombiez sur le bon fournisseur et à partir de là vous faites une plus grosse commande qui est peut-être juste 10, 15, 20 et nous dira et nous expliquera après.
Exactement.
Et si ça fonctionne, ben vous achèterez 40. Mais ne vous imaginez pas que vous allez passer de votre chambre à écouter ce podcast à millionnaire sur Shopify. Ça, c'est Yomi Denzel qui vous l'explique. Nous, on est là pour dire des vérités, tu vois.
Bah.
Très motivant le gars, mais il y a un moment donné, on est là pour dire les choses réelles, tu vois.
Et
Donc.
d'ailleurs, là, vous le voyez pas, mais Lucas va le voir. Là, on est dans ma chambre. Et là, il y a les cartons. Donc, tu vois, c'est. T'es pas là avec ton gros entrepôt, ça fait 2 ans qu'il y a la marque et le stock est toujours dans ma chambre.
Moi, j'ai un exemple par rapport à ça, c'est Bazinga avec ses jerseys. À la base, donc sa chaîne YouTube était beaucoup plus petite, il avait, je sais pas, genre 10-20 000 abonnés, ce qui est déjà énorme en soi, maintenant je le sais. Mais et il a fait des jerseys et il en a vendu. Mais en fait, je crois que la première commande, c'était genre 30 ou 20. Et donc quand il a dit
Merde.
ouais, sold out, il y en avait 20. Normal, il y a 5 potes à toi et 15 clients et ta mère.
Ouais.
Mais grâce à ce 20 jersey, il a peut-être acheté, je sais pas moi, 30 t-shirts qui ont fait 70 hoodies, qui ont fait 80 pantalons cargo, qui ont fait qu'il a sorti une ceinture. Et en fait, on est quelques années plus tard et maintenant, c'est une marque Base Athletics. Et c'est pas pour parler de
Exactement.
concurrents et tout, Irvine, c'est juste pour faire le parallèle. La
Ah,
marque
t'as
Discipline, c'est la même chose. La marque Virtue Gains, c'est la même chose. En fait, vous êtes obligé de commencer petit, vous êtes obligé de vous casser la gueule. Il y a des étapes qui ne sont pas compressibles. Et c'est justement parce que vous allez passer par ces étapes que vous allez gagner gros. Et je vous dirais même, je ne vous souhaite pas de réussir par chance. Parce que si vous réussissez à trouver le fournisseur parfait et que vous trouvez 100 t-shirts et que vous vendez les 100 d'un coup, c'est le meilleur moyen de couler plus tard quand vous aurez beaucoup d'argent parce que vous ne saurez pas comment l'investir.
Ah, c'est pas ça. Et puis, on revient au fait de demander toujours des réponses, en fait. Et bah, en fait, crée-toi, t'as des questions, et bah, trouve les réponses toi-même en faisant. Trouve les réponses toi-même en faisant, tu vois. Bah, j'aurais pu, tu vois, je sais pas, demander à un pote qui a, en l'occurrence, j'en ai pas, mais j'aurais pu, DM, Basilga, c'est pas ton fournisseur, c'est pas ton fournisseur, je veux lancer une marque. Je pense que si tu me demandes ce que c'est, qui est mon fournisseur, et que t'as pas déjà une marque, il y a un grand moyen que tu n'aies jamais de marque. Parce que tu passeras pas au truc, parce que tu n'as pas la réponse directe. Et franchement, lancez-vous, tu vois. Il y a des petites marques, même si vous êtes personne, tu vois. Moi, je suis personne, encore une fois, on a parlé de 1000 abonnés, tu vois. Je suis pas là à vendre un milliard de t-shirts, mais c'est le début. Et il faut commencer quelque part. Et il faut se donner des postes, donner postes, casser la gueule. Il faut réussir aussi. Parfois, là, le dernier lancement, c'était une grosse réussite, même si on n'a pas sonné, tu vois. On a fait les meilleurs chiffres ever. Mais et ça, d'ailleurs, ça nous a permis de commander le drop du Black Friday. Tu vois, c'est comme ça, c'est tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis, tu sors pas de thune, tu réinvestis, tu
Ça,
testes, etc. Comme ça.
c'est un truc très intéressant que tu dis aussi. Un truc que j'ai beaucoup compris cette année. Il y a pas mal de gens qui me DM sur Insta par rapport au coaching sportif, vivre à Montréal, tout ça, qui me disent mais comment tu fais pour gagner de l'argent, France c'est dur, machin, machin. Il y a un truc dont je voulais
Oh.
parler sur ce podcast et tu l'as très bien dit. En fait, j'ai compris que avoir de l'argent, c'est un, ne pas le dépenser, et deux, quand c'est ta société qui fait de l'argent, ne pas le prendre pour toi et juste le remettre dans la société. Exemple tout bête, comme je gagne plus d'argent, je pourrais être tenté de me dire, ok, j'achète plein de fringues, je fais plein de trucs, machin et tout. Et ben en fait, je me suis juste dit, ok, je vais prendre des sous et je vais acheter une caméra. Et j'ai fait ça au début de l'année. Du coup, mes vidéos sont meilleures. Du coup, mon compte, il monte un peu plus. Du coup, j'ai un peu plus d'abonnés. Du coup, j'ai un peu plus de clients. Du coup, j'ai gagné un peu plus d'argent. Et ben c'est que cet argent, je me suis dit, je vais acheter un micro. Du coup, je vais pouvoir faire des meilleurs podcasts. Du coup, je vais pouvoir inviter Irvine. Tu vois? Donc, c'est con, mais il faut aussi avoir cette notion d'investir, mais de réinvestir. Parce que
Toujours.
peut-être que dans votre tête, vous imaginez qu'on fait un lancement et qu'on vend, je sais pas, moi, 100 t-shirts et qu'on fait 10 000 euros. J'ai une bêtise. Mais vous allez faire quoi avec ces 10 000 euros, en fait? Vous allez vous acheter des trucs qui flexent? Non. En fait, si vous avez un cerveau, avec ces 10 000 euros, la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité, bah, ça va être réinvesti pour acheter 200 t-shirts la prochaine fois.
Exactement. C'est assez intéressant. Tu vois, on va prendre des gros chiffres, mais en fait, on va rester sur ton 10 000 euros là. Imagine, tu fais 10 000 euros, tu peux être sûr que tu n'as pas 10 000 euros sur le compte bancaire. Tu n'as pas 10 000 euros sur le compte bancaire, ce n'est pas possible. Et moi, je te dis, on a l'argent du drop est arrivé le lendemain, je faisais la commande du Black Friday. Donc, il est parti d'un coup. Il est arrivé, il est parti. Il est arrivé, il est parti. Et c'est toujours comme ça. Tu vois,
Et
et tu pourrais les prendre, tu pourrais les prendre pour toi. Mais derrière, en fait, comment tu réinvestis derrière? Comment tu fais ton prochain lancement? Comment tu augmentes ta com? Comment tu trouves des meilleures idées? Comment tu continue, comment tu montres que, en fait, t'es qu'au début et que tu vas détruire ce fucking game.
en fait, si tu
Au
veux
revoir.
rester dans la course, il faut continuer de courir. Il y a des livres qui parlent de l'argent comme, je crois que c'est Père riche, Père pauvre qui dit ça. En gros, l'argent, c'est une énergie. Et où est-ce que tu mets ton énergie? Tu la mets pas. Tu mets pas ton énergie en fait dans des choses qui vont être futiles, qui vont te faire un plaisir pendant 3 secondes. Là, l'iPhone 15 est sorti, il y a 10 tonnes de gens qui l'ont acheté. Pour moi, les seuls gens qui devraient l'acheter, c'est les gens qui sont créateurs de contenu à plein temps. Parce que la caméra, c'est la caméra dernier cri, parce que machin et tout. Ok, d'accord. Mais en fait, tu fais pas de vidéo, tu fais pas de photos. T'es éclaté, t'es moche. Pourquoi tu prends l'iPhone 15 si de toute façon, personne ne les verra jamais tes photos, à part toi. Oui, si t'es
Ah ben
riche,
si t'as les
d'accord.
moyens, c'est cool, ouais, voilà, c'est ça,
Oui,
mais...
ça c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que
Et, ouais.
si t'es un jeune ambitieux qui veut faire des choses dans la vie, entreprendre et tout, ta priorité, ça devrait pas être d'avoir l'iPhone 15. Ta priorité, ce serait de réfléchir à développer des skills comme le montage vidéo, le
Ah, clairement.
copywriting, le fait de savoir parler devant une audience, le fait de développer un marketing, de la communication, etc. Et en fait, c'est juste pour dire que ce que dit Irvine, c'est très 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 important. L'argent, il est arrivé, il est déjà reparti. Parce que l'argent, c'est littéralement. Putain, j'ai un ami qui s'appelle Mitch, que j'entraîne très souvent à Garda, qui m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit, ouais, je lisais un livre de business, ça disait, l'argent, c'est des petits esclaves. En fait,
Vraiment.
non, oui, en fait, l'argent, il faut le voir comme des petits esclaves, et il faut surtout pas qu'ils restent à la maison. Il faut toujours qu'ils soient en mission. Un peu
Ouais,
comme un jeu vidéo, tu
toujours.
sais, où t'as des personnages non utilisés, que tu peux les envoyer récolter des
Mais ouais.
ressources. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, très bien.
Et en
Je
gros,
sais pas.
ben, ceux qui ont joué à des jeux, tu sais, genre Age of Empires ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Il faut que toujours que tes petits bonhommes, ils aillent couper du bois, tu vois. Même quand t'es déconnecté, ils coupent du bois. Et ben, en gros, il faut essayer de voir l'argent comme ça. Irvine, ce qu'il vous dit, c'est que l'argent du compte, il est arrivé grâce à un lancement. Et il s'est pas dit, ouais, allez, resto, machin. Alors oui, on se fait plaisir, tout ça, c'est cool, mais il a direct renvoyé l'argent, refaire une petite mission. Et du coup, quand ça reviendra, ce sera sûrement 10 ou 15% de plus. Et là, par contre, dans quelques années, quand l'argent, ce sera plus des 10, mais que ce sera des 100, des 150, bah, il pourra prendre 10 pour se
Voilà,
faire
c'est ça,
plaisir.
exactement.
Il
Pour
pourra
inviter
prendre
Lucas au
10.
resto et pour faire un podcast dans un vrai
Voilà,
studio
c'est
ensemble,
ça, c'est ça. Oh,
à
bah,
la
on aura une villa
Défi-TV.
d'ici là. On aura une villa, t'inquiète pas. On aura la pièce exprès pour.
Exactement. Avec la Discreen Gym derrière,
Putain.
l'entrepôt de stockage, ça c'est la vision.
Incroyable. Ok, donc est-ce que. Donc là, on a parlé compétition bodybuilding, on a parlé de ta marque. J'aimerais que tu me parles un petit peu, du coup, de ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui te drive à faire des vidéos, à parler aux gens, etc. Pourquoi tu as créé ça et qu'est-ce qui te fait continuer?
Pourquoi j'ai créé ça? Tout à l'heure, l'histoire que je parlais de la discipline. En fait, j'ai toujours été, moi, toujours été très solitaire. Quand j'étais au collège, je me faisais harceler à cause de mon poids et tout, on se moquait de moi
Attends
et...
une seconde, attends, attends. Je vais mettre une musique triste en background. Je
Ouais,
rigole,
vas-y,
je
mets
rigole,
une
je
musique
rigole.
triste, mets un filtre noir et blanc. Dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais... Voilà, mais bref, c'est même pas triste, c'est la vie, tu vois. Mais c'est dire, en fait, j'ai passé tellement de temps solo que... J'ai dû me forger tout seul. J'ai dû me forger. J'ai dû me forger là-dedans. Et je me suis dit, en fait, ça m'a décuplé confiance. Ça m'a décuplé justement ma capacité à me dire, OK, ben non, en fait, je ne vais pas demander le fournisseur, je vais le trouver moi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai personne pour me dire. Du coup, quand j'ai vu les résultats que je pouvais avoir avec cette discipline-là sur mon physique, et on sait très bien que le physique, c'est un des points principaux que les gens ont envie de changer et qui veulent changer, je me suis dit, bah, en fait, partage, t'es passé par là et je pense que t'es la preuve vivante que t'es pas un modèle sur Insta qui a directement issu le corps, tu t'es montré que tu peux le faire, maintenant tu peux aussi montrer aux autres que tu peux le faire. Et j'ai commencé à partager ma passion, ça, ma chaîne YouTube, vous pouvez remonter dessus, c'est une vidéo de 5 minutes juste où je fais des abdos, tu vois, c'est un truc comme ça. Et ça, c'est une autre leçon aussi. C'est commencer et commencer petit et vous n'avez pas à faire un truc incroyable dès le début. Tu vois, moi, j'ai commencé en sachant bien que c'était de la merde la vidéo. En fait, je me suis dit, ah, mais mec, Gavin, si tu postes une vidéo là, tu vas te donner la preuve pour poster une vidéo. Donc, d'abord, fais une vidéo facile à faire où tu n'as pas trop d'enjeux. Donne-toi la preuve. Et ensuite, ah, ok, tu peux faire ça. Ah, ok, tu peux faire ça. Et au fur et à mesure, et je continue à. Continuer justement à partager ma passion parce que c'est ce qui m'a changé la vie et aujourd'hui c'est ce qui peut inspirer des gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça les inspire et moi, si je peux inspirer une seule personne à exploiter son potentiel, c'est là le slogan de la marque aussi, mais c'est vraiment le but, c'est à travers le contenu et à travers ce que je fais.
J'ajouterais une petite chose, donc c'est très beau ce que tu dis et je me retrouve vraiment dans ton explication parce que moi aussi ça part
Oui.
d'une transformation et d'avoir l'envie de montrer aux gens qui peuvent le faire aussi. Mais je voulais rajouter un truc. On me demande assez souvent mes montages. On me dit comment t'as appris le montage? Sur quoi tu montes? Est-ce que c'est DaVinci Resolve? Est-ce que c'est machin? Donc ça peut paraître prétentieux mais je sais que je monte peut-être bien, je vais pas dire
Donc
de
là-bas.
manière excellente mais je monte bien. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent. Et je leur réponds souvent, et ça surprend pas mal. Une grande partie du temps, je monte sur mon téléphone. Et que ça soit sur mon téléphone ou l'ordi, je monte sur CapCut. Et moi, mon seul processus créatif, c'est que souvent, je suis dans le bus en train de marcher avec une musique. La musique, elle me donne des émotions de fou. Et là, je me dis, oh, le montage, faut qu'il soit badass. Et j'ai déjà le montage dans la tête. Mais
Ouais.
surtout, 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 la plus grande partie de mon processus créatif, c'est comme l'a dit Irvine. Poster des vidéos où je me rends compte que finalement c'était de la merde. Alors je m'en rends pas toujours compte sur le moment, mais en fait je poste ma vidéo, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, c'est le mieux que j'ai pu faire sur le moment de toute façon. Et avec le recul, généralement le lendemain ça suffit. J'ai pas besoin d'attendre 2 mois pour changer. Le lendemain je revois la vidéo et tout le monde m'envoie des DM. Oh, la vidéo elle est super. Oh, le montage masterclass. Et moi je regarde la vidéo, je suis là genre putain mais c'est dégueulasse. Et en fait ça me fait ça. Dites-vous que derrière votre écran, si jamais vous regardez mes vidéos YouTube, je sais qu'on n'est pas forcément très nombreux sur ma chaîne, mais je sais qu'il y en a certains. Souvent, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voyez aussi mes vidéos. Vous pouvez vous dire que le montage est cool, mais moi, quand je le vois, c'est de la merde. Moi, je sais que c'est de la merde.
Ouais.
Et en fait, c'est comme ça que la vidéo suivante est meilleure, même si je suis aussi content de mon travail. Et je pense que pour Irvine, c'est pareil, même pour une collection de vêtements, même peut-être pour une compétition. En fait, c'est ça, c'est avec le recul, avec l'expérience qu'on se rend compte que finalement, bah, le dessin qu'on faisait quand on avait 8 ans, qu'on était trop fier avec une chauve-souris dégueulasse au feutre rose, Bah, en fait, c'était dégueulasse, mais sur le moment, on était fiers de fou. Et quelques années plus tard, quelques mois, quelques jours, quelques semaines, on regarde son travail, on a évolué et on en fait de nouvelles versions. Et de toute façon, ce processus-là, vous ne pourrez pas passer à travers. Vous ne pourrez jamais faire la vidéo parfaite parce que même si vous passez 8 ans à faire une vidéo et que vous la sortez maintenant, bah,
Le lendemain,
en
vous l'aimez
fait,
pas.
ouais, dans une semaine, il y a une nouvelle vidéo qui sort de quelqu'un d'autre et vous allez vous dire que lui, ce qu'il fait, c'est mieux, que l'herbe est plus verte à côté. Oh putain. Que l'herbe est plus verte à côté, pardon. Et que vous auriez pu faire différemment. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir honte, en fait. Il y avait une phrase en anglais, c'était. Comment ça s'appelle? En gros, ça veut dire publie tes brouillons. Il y a plein
Ah,
de gens, en fait.
mais c'est du laughs.
Ouais, voilà. C'est un truc
Ouais.
comme ça, en gros. Il faut pas hésiter à mettre en avant ses essais, ses brouillons. Et je dirais
Okay.
même mieux, c'est génial de documenter son process. Et c'est comme ça que
C'est
les gens
fou.
vont s'attacher à vous si vous voulez avoir une chaîne YouTube. Moi, je trouve ça génial parce que ce qui fait Irvine, par exemple, le fait d'être hyper régulier sur YouTube depuis longtemps, bah en fait, on le voit évoluer. Ça veut dire que si dans 5 ans, il est big connu, qu'il a 1 million d'abonnés, qu'on retourne sur sa chaîne YouTube, on verra les vidéos de maintenant
Voilà.
ou d'il y a un an.
Quand dans 5 ans?
Quand dans
Quand dans
5 ans?
5 ans? Pas si dans 5 ans.
Non, mais quand je dis si
Quand?
dans 5 ans, c'est parce que ça se trouve, ce sera dans 2, tu vois.
C'est pas. J'espère. On va tout faire pour.
Donc voilà, et un truc dont on parlait beaucoup sur Instagram tous les deux, je sais pas s'il nous écoutera, mais peut-être qu'en travaillant, en prenant une pause ou quoi, il nous écoutera. On parlait de Tristan, on parlait de Tristan qui est un gars très inspirant, Tristan Vincent, qui a commencé un compte récemment, qui est
Gigabit,
passé
moi.
de 400 à 13 ou 15 000 abonnés, c'est abusé. Il me disait sur Insta, ouais, je vais préparer le gâteau pour fêter mes 10 000, mais en fait, il aura sûrement 15. Je voulais parler d'un truc, je voulais parler justement du processus entrepreneurial, créatif et tout. Vincent, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Ou Tristan, pardon, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de publier tous les jours une vidéo, donc un jour sur 99, 2 jours sur 99, où il essaie de changer sa vie. Et qu'est-ce que ça donne comme image de lui? Ça donne l'image de quelqu'un qui chaque jour fait un effort pour devenir meilleur et qui documente tout ce qu'il fait. Et de la même manière, Irvine, toutes les semaines avec ses vidéos YouTube ou moi-même sur YouTube. Toutes les semaines, quand je suis régulier, je documente mon ascension et mon évolution. Ça, c'est quelque chose de très beau. Et quand vous avez peur de publier, de faire, de créer, de montrer aux gens, essayez d'imaginer une chose. Ça, j'en ai peut-être parlé à Kirvin, je ne suis pas sûr, mais de toute façon, je pense qu'il me comprendra. Essayez d'imaginer qu'en fait, vous êtes en train de faire des vidéos pour vos enfants plus tard. Et à partir de ce moment-là, ça va prendre une tournure totalement différente. Moi, j'essaye de m'imaginer un truc, je me dis. Si là je crée des vidéos toutes les semaines sur comment j'ai changé ma vie jusqu'à dans quelques années où je vais être riche, célèbre, tout ça, vous voyez, vous avez vu le délire. Et bah ça se trouve un jour, mes gosses, ils seront en âge de regarder ces vidéos. Et quand
Il faut.
ils seront paumés dans la vie, ils verront des vidéos de moi paumé dans la vie qui essaye de m'en sortir. Et je trouve ça hyper inspirant. Et donc bah, que t'aies 0 abonné, 1 000 abonnés ou 1 million, si tu fais des vidéos pour tes enfants plus tard, tu vois, pour leur donner des leçons de vie, de. Ok, bah là j'ai 23 ans, voilà comment je vois le monde, voilà ce que j'aimerais faire dans la vie, voilà toutes mes erreurs, voilà comment je suis paumé, voilà comment j'aimerais m'en sortir. Bah tu vas inspirer des tas de gens sur le chemin, mais peut-être un jour tes gosses ils vont regarder. Qu'est-ce que t'en
Et
penses toi?
ça c'est fou. Déjà, rien que le fait de documenter pour toi, pour avoir des souvenirs, tu vois, même si t'as pas de gosse ou quoi, de dire, bah en fait, tu vois, je sais pas, quand tu regardes les adultes, tu te dis, mais ce serait trop cool d'avoir une trace de tout ce qu'il a fait. Oh, il me parle que mon père, il me parle que quand il était gosse, il a fait un prank, je sais pas quoi, il a envoyé de la merde ou je ne sais quoi, tu vois. Et tu te dis, mais imagine, il y a une vidéo dessus, en fait. C'est fou. Tu vois la personne qui te parle et tu vois en temps réel, en fait. Et c'est juste dingue de se dire, tu peux créer tes souvenirs. Enfin, tu peux documenter tes souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment présent et demain, ce sera des souvenirs. Et c'est juste fou. Et c'est ce que j'adore dans la création de contenu. Effectivement, c'est du travail. Mais le fait de dire, en fait, ça reste là. Il y a un côté un peu qui fait peur en mode, ouais, ça restera toujours là. Mais en fait, si tu fais pas de la merde, bah, c'est trop cool que ça reste toujours là.
Mais même si tu fais de la merde, parce que
Mais merde,
c'est
non, mais.
j'ai.
Quand je disais de la merde, c'est genre des trucs qui peuvent t'incriminer, tu vois ce que je veux dire?
Oh
Genre.
oui.
Mais oui, effectivement, c'est une merde. Justement, tu vas pouvoir dire, mais regardez, en fait, j'ai fait mais tellement de la merde. Et ça m'a pas empêché de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et ça, c'est trop bien.
Mais je crois que c'était Gary V qui disait ça, qui disait qu'en gros, bah, il faut voir sa chaîne YouTube sur Instagram et tout comme un géant film documentaire en fait, et que plus tard, tu pourrais y revenir, faire revenir des proches, tes enfants, ta famille, etc. Moi, ça m'arrive de temps en temps de regarder des très 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 vieilles photos dans mes albums ou des très vieilles vidéos, on va dire. Je dis très vieilles, mais en vrai, non, il y a 2-3 ans. Et par exemple, il y a quelques jours, bah, je regardais des anciens Reels sur mon Instagram, des très vieux Reels. Et en fait, c'était dans mon ancien appart, tout pourri, tout pété, avec la baie vitrée. C'était un garage retapé en appart, en fait, donc c'était minuscule, c'était une chambre plus qu'un appart. Genre, les vidéos, elles sont dégueulasses, le montage, il est dégueulasse, ma tête, elle est dégueulasse, mon physique, il est dégueulasse, il n'y a rien qui va. Et pourtant, je me souviens parfaitement que quand je montais ces Reels-là ou ces vidéos YouTube-là de cette époque, j'étais chaud bouillant, je me pensais tellement bon.
Bien sûr,
Oh,
bien sûr.
je mettais juste une musique, une lumière bleue immonde, des LED dégueulasses, et je croyais que j'étais chaud de ouf. Et ce qui est drôle, c'est que le processus créatif ou d'évolution, généralement, plus t'es bon, plus t'es humble. Et du coup, ça me rassure de me dire qu'en ce moment, quand je fais une vidéo, je me dis que c'est de la merde par rapport aux autres. Ça veut peut-être dire que j'ai un peu changé, tu vois.
Et non seulement c'est vrai ce que tu dis, mais il y a aussi le fait de, en fait, si t'arrives jamais, si tu cringes pas. Si tu cringes pas à ce que tu fais avant, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas grandi, tu vois, t'es pas devenu meilleur. Et le fait de, quand tu étais dans ce moment-là, en te disant, ouais, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool, eh ben, en fait, tu serais jamais arrivé à ton niveau-là si, quand tu étais à ce moment-là, tu te t'étais pas dit, si tu t'étais dit, ah non, c'est de la merde, je pose pas, tu l'aurais jamais posté et tu n'aurais jamais continué. Mais en fait, tu l'as fait, tu as continué. Et c'est parce que dans ce moment, tu te disais, mais c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool, et que tu as fait 100%, 100, 110% de ce que tu pouvais faire ce jour-là. Que tu as continué. Et certes, demain, ce ne sera pas bien. Mais aujourd'hui, si tu te donnes la preuve que tu peux le faire, eh ben, demain, tu feras mieux, demain, tu feras mieux, demain, tu feras mieux, demain, tu feras
Alors Irvine, du coup, on arrive à 51 minutes de podcast et
mieux. Je
j'ai
suis en train de
deux
regarder ça.
dernières questions à te poser.
Il y a une.
Je te spoil la dernière. La dernière, ce sera les leçons que tu veux donner à nos auditeurs, un mot de la fin, etc. Mais attends, on n'y est pas tout de suite. L'avant-dernière question que je vais te poser, elle est en rapport à tes études. J'aimerais que tu nous expliques les études que tu as faites, ce que ça aurait pu te rapporter et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre des risques. Parce que ça, j'en parlerai dans le prochain épisode solo. Les amis, j'ai pris de très gros risques en cette fin d'année, pour moi, mais aussi pour vous. Et j'aimerais, avant de vous l'annoncer dans quelques temps, que Irvine puisse vous expliquer sa prise de risque à lui et pourquoi il l'a faite. Surtout, comment il a pu avoir le courage de passer à côté d'une certaine somme. Mais je pense que tu le diras mieux que moi, parce que moi, j'ai juste fait des études dans l'entraînement sportif. Mais quand on a un diplôme, dans tous les cas, rien ne nous empêche d'y revenir plus tard. Je ne spoile pas plus. Je te laisse nous expliquer tout ça.
Ouais, bien sûr. Donc, en gros, moi, j'ai un pote, enfin, mon père est militaire, ma mère est assistante maternelle, donc, tu vois, il n'y a pas grosse éducation, il n'y a pas forcément tout ça. Mais avec le travail, encore une fois, je me suis dit que je pouvais aller loin. Et en fait, je travaillais, et je suis arrivé à Dauphine, donc qui est une plus grosse université de France, et notamment en finance, donc j'ai continué en finance là-dedans. Et j'ai fait le. Sans flex, hein, mais c'est le meilleur master en finance de France, je pense.
Sans flex, mais je suis le meilleur.
Sans. Non, mais. Parce que voilà, encore une fois, je ne l'utilise pas. Enfin, je l'utilise quasiment pas. Mais bref. Et donc, pour vous donner une idée, on va dire la France moyenne, mais quand tu sors de tes études, tu fais, on va dire, 30 000 euros. Ok?
Irvine,
Tu as un contrat.
dis les termes. Dis les termes, frérot. C'est pas grave. Dis les termes, il n'y a pas de tabou.
Ok, bon, la plupart des gens, tu sors et tu taffes et tu trouves avec un taf pas ouf, déjà que t'aimes pas, tu te prends des salaires à 30 000 euros. Et en fait, la plupart des gens sont contents avec ça, ok? Les gens qui sortent de mon master, à 23 ans, on a des offres à... C'est quasi 30 000 le mois, tu vois. C'est... J'ai des potes, ils ont signé des contrats à 180 000 euros l'année, à 23 ans. Je répète, 180 000 euros l'année à 23 ans. C'est insane. Insane. L'argent que tu fais là-dedans, c'est. Alors, je n'ai pas parlé de métier là, mais c'est du trading ou c'est de la banque d'investissement. Donc, en gros, tu gères. Soit tu lèves des fonds pour des sociétés, soit tu investis dans ces sociétés, soit tu fais en sorte que deux sociétés s'achètent ou se vendent entre elles. Bref, un truc bien financier, bien. Ah. Et évidemment, ça. Hein, parce que 180 000 euros, ce n'est pas en faisant ton 35 heures par semaine. OK? J'ai des potes qui font du. Je pense qu'il ne nous écoutera pas, mais un gars, Mathias, pendant un mois, il a fait 9 h à 8 h du matin. T'as pas de vie, en fait. T'as pas de. t'as pas de vie. Et ils kiffent ça, hein, donc tant mieux, tu vois, c'est trop cool. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois la vie. Tu vois, j'ai toujours voulu faire mes trucs, j'étais. Et en plus de ça, j'avais déjà commencé la discipline, donc j'avais déjà ça. Et en fait, je me suis dit, non, donne-toi la chance. T'es jeune, t'as pas de responsabilité. Prends des risques, comme tu en as parlé tout à l'heure. Prends des risques. Donc, je me suis lancé en freelance, à mon compte. J'avais lancé déjà la marque en parallèle. Mais en fait, l'activité qui me rémunère aujourd'hui, ce n'est pas la marque, ce n'est pas le contenu, c'est le fait que j'aide les startups à avoir des prêts bancaires ou à lever des fonds. Donc, c'est ce que je fais. Et je touche pas un quart de, un quart des 180 000 euros par an, tu vois. Mais c'est le trade-off, le trade-off. Bon, je n'ai pas le mot là comme ça qui me vient, mais le trade-off entre la vie que tu as et l'argent, pour moi, je suis à 100% en mode vie comme tu l'entends. Peu importe combien tu gagnes, si tu es heureux et que tu fais ce que tu plais, c'est très bien. C'est très bien. Et ça, c'était un gros risque que j'ai pris. Mais au final, en fait, tout est une question de risque et tout est une question de regret.
Irving,
C'est. Ouais.
qu'est-ce qui te plaît tellement dans la création de contenu et de ta marque et de tes vidéos, etc.? Quel est le drive qui fait que tu es prêt à sacrifier une somme court terme pour tout cet investissement, ce travail long terme?
Il y a le drive positif, je vais te dire, je me sens gratifiant, je travaille, je me prends des claques, je deviens meilleur, que j'aurais pas forcément eu l'impression de faire si j'avais ce gros taf où certes je faisais des trucs immenses et je gagnais beaucoup et je serais meilleur pour la société, entre guillemets, les standards de la société. Ça, c'est le drive positif et il y a le drive négatif de me dire, mais en fait, si je fais ça, quand je vais mourir, je vais réfléchir et me dire, t'as fait quoi de ta vie en fait? Pourquoi t'as pas fait ce que tu voulais? Pourquoi t'as fait ça en fait? Et surtout, pourquoi t'as pas fait ça? Et quand je dis ça, c'est justement prendre des risques, lancer ta marque, faire ce que tu avais envie de faire. Et ça, c'est, je pense, ma plus grande peur, c'est de d'arriver à la mort et de me dire, je regrette de ne pas avoir vécu comme je voulais.
Alors, premièrement, merci beaucoup pour toute ton histoire, toute ton explication, tout ton passage sur ce podcast et cette expérience, ce partage d'expérience, parce que tu n'as pas une vie commune. Tu es créateur de contenu, tu as un master, un des meilleurs masters en finance du monde, donc tu pourrais faire littéralement tout l'argent que tu veux, et tu choisis la voie difficile. Donc déjà pour ça, bravo. Petite aparté, avant d'apporter ma conclusion et mon avis sur ce que tu viens de dire. Déjà, rien ne te dit que tu feras pas 30 000 euros par mois dans quelques années, sauf que ce
Yes.
sera avec une de tes sociétés en passif ou juste la chaîne YouTube, etc. Donc oui, ce qu'on fait, c'est plus difficile. Oui, il y a beaucoup moins de chances de réussir. Mais si on réussit, le ratio risk-reward est largement récompensé parce que,
Bien sûr.
oh, si on fait partie des meilleurs dans ce qu'on fait, l'argent, ce ne sera pas un problème.
C'est plus que 180 000 euros. Je vais pas en faire
Ensuite,
bien plus que ça.
mon avis par rapport à ça, mon humble avis, c'est que la plus grande richesse qu'on ait dans la vie, c'est notre temps. Parce que si je vous enlève votre temps, que vous soyez riche, en forme, avec tout le bonheur du monde de relations personnelles, financières, etc., ben vous êtes mort. Enfin, s'il y a plus de temps, si le temps s'arrête, tout est fini. Donc ça, c'est la première richesse, qu'on le veuille ou non. La deuxième richesse, c'est la santé. Parce que si vous avez du temps et toute la richesse et toutes les relations du monde, etc., mais que vous avez le cancer, vous allez crever, donc c'est pareil, ça sert à rien. Maintenant, si vous avez le temps et la santé, eh ben il nous reste les relations, l'amour, la passion, les finances, etc. Et là, libre à chacun de mettre l'ordre dans lequel il le souhaite. C'était pas du tout français, mais libre à chacun de choisir l'ordre de ces choses-là. Mais je vous invite quand même à réfléchir sur le fait qu'il y a énormément de gens extrêmement riches dans ce monde qui sont extrêmement pauvres, parce qu'on a un biais qui s'appelle le biais d'adaptation. Si je vous donne 10 000 euros par mois, tout ce qui est au-dessus n'aura plus vraiment de sens. Il y a des études qui ont recensé sur les gens les plus riches de la planète. Jusqu'à 10 000 euros par mois, à chaque fois que vous gagnez des 1 000, des 2 000 de plus par mois, vous êtes de plus en plus heureux, etc. Au-delà, vous n'arrivez plus à vous épanouir. Parce qu'en fait, une fois que vous avez fait le tour, des voyages, des jet skis, des machins, des plages, etc., ça devient banal. Parce que vous vous adaptez à ce niveau de vie. Donc que vous ayez 10 ou 30 000 euros par mois, dans tous les cas, vous allez vivre comme quelqu'un qui a 10, mais un peu plus. Et après, il y a les ultra riches qui ont des millions ou des milliards, mais de toute façon, cet argent sera rarement investi dans des plaisirs différents des gens qui ont 10 000. Il sera plutôt investi dans des projets de fou, genre des fusées, développer des marques de malades. Mais dans tous les cas, les gens à l'extrême de la richesse ne sont pas forcément plus heureux que les gens qui sont juste très 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 bien. Donc ça, c'est la première réflexion que je vous invite à avoir. Deuxième réflexion, c'est que quand on meurt ou quand on est sur le point de mourir, il y a des études, ça c'est le Basecast qui m'a appris ça, mais de toute façon j'en avais déjà l'intuition. La plupart des gens qui étaient à l'article de la mort de 90 ans ont recensé que ce qu'on regrette le plus dans la vie, ce ne sont pas les commissions, mais les omissions.
La
On
mission,
regrette
ouais.
toujours des choses qu'on n'a pas faites, parce que les choses qu'on a faites qui étaient des erreurs nous ont juste appris et fait grandir. J'ai fait un nombre incalculable d'erreurs du haut de mes 23 ans, Irvine a dû en faire pas mal autant. Mais on regrette rarement les choses qu'on a faites qui étaient débiles. Là, par exemple, je m'apprête à prendre des gros risques, Irvine en prend aussi. On fait plein de choses cons. C'est pas grave. On est des humains. Et pour tout le monde sur cette planète, quelles que soient vos croyances, même si c'est votre cinquième ou centième vie que vous êtes réincarné ou je sais pas quoi, personne n'en a le souvenir.
Non.
Donc pour tout le monde, c'est la bêta test. On fait tous de la merde. On est tous des petits bonhommes sur une planète qui font de la merde. Donc on regrette jamais les commissions, on regrette toujours les omissions. Quand on est à 90 ans, qu'on est sur son lit de la mort, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, je le verrai bien, mais les gens disent que ils regrettent de ne pas avoir dit ça, de ne pas avoir fait ça,
Yes.
de ne pas avoir essayé machin. Et je connais les statistiques des auditeurs de ce podcast. Là, si tu m'écoutes, t'as probablement entre 20 et 30 ans. Et t'es probablement aux études avec beaucoup d'ambition, pas mal de projets, pas mal d'idées dans ta tête et tu hésites à faire des choses. N'hésite pas, t'as rien à perdre. Parce que entre la vingtaine et la trentaine, pour moi, c'est l'école de se casser la gueule. C'est là où tu dois le plus possible faire de la merde. C'est là où tu dois le plus possible expérimenter. Et au pire, comme le dit Irvine avec son diplôme, comme moi ça peut être avec mon diplôme d'entraîneur sportif, rien ne vous empêche, une fois que vous avez fait le tour de vos idées, de vos projets et que là vous dites, ok, là j'ai une maison, j'ai un gosse, j'ai un chien. Mes projets, ils n'ont pas marché pendant 10 ans. Je vais m'asseoir un petit peu, poser mon cul dans un job stable. Parce que rien ne vous empêche non plus de retenter à 40 ans. Il y a des gens qui l'ont. Il y a des gens qui ont été super successful à 43, 50, 70. Il y a des gens qui sont devenus des superstars à 80 ans. Il y a des mamies sur TikTok qui ont commencé TikTok et qui ont fait des millions d'abonnés, gros. Et je me tape des
C'est
barres.
fou, c'est fou.
Donc, n'ayez pas peur de tenter de prendre des risques et surtout de choisir la voie du gut feeling, de la passion et de l'amour de ce que vous faites. Parce que dans tous les cas, il y a des dépressifs qui font 50 000 euros par mois et il y a des gens extrêmement heureux qui font juste 2 000, mais qui sont posés le cul sur une plage à Bali tous les jours. Donc
Clairement.
il faut pas voir l'argent comme frein, il faut juste le voir comme énergie qui permet d'accumuler en fait de l'expérience, du savoir et d'aider et de toucher plus de personnes. Et voilà, ça c'est ma
Et ça,
conclusion.
pour rebondir un peu, ça c'est lié à quelque chose de dire, ouais, mais en fait, c'est vrai que bon, c'est une question qui peut être dit, c'est, ouais, mais écoute, Lucas, si je ne sais pas ce que je veux faire, si je n'ai pas trouvé mon calling, si je n'ai pas ma passion, comment je fais en fait, pourquoi je ne peux pas prendre ce job?
Voyage,
Bah,
casse-toi,
déjà,
bouge.
ouais, mais surtout, essaye plein de trucs en fait. Essaye plein de trucs. Moi, avant, on n'a pas du tout parlé, et je crois que même que tu ne savais pas, Lucas, mais avant de me lancer à la muscu, il y a des sons à moi du rap américain sur YouTube. Oh, pour de la musique, tu vois.
Gros, c'est pas
Et
vrai.
tu te promets, ça va, si tu veux.
Incroyable.
Et tu vois, c'est des trucs. J'ai testé plein de trucs et je suis allé au bout de la chose. Et au final, tu vois, j'ai pas kiffé la musique. Donc là, maintenant, je suis dans mon truc et je suis dans ma mission. Et là, je sais que ça fait 4 ans que je suis dessus et ça changera pas. Ça changera pas. Je sais que c'est mon truc. Enfin, ça changera pas. Ça évoluera. Mais là aujourd'hui c'est mon truc et je continue. Mais si vous savez pas ce que vous voulez faire aujourd'hui, essayez. Et généralement, un truc assez intéressant, c'est le test. Tu veux savoir un peu ce qui fait kiffer? Qu'est-ce que quand tu le fais, tu oublies de pisser, tu oublies de manger, tu oublies de dormir. Généralement, fais ça tout seul.
Et il y a aussi une autre phrase, c'est si tu veux savoir comment devenir riche et heureux, prends quelque chose que tu fais gratuitement avec le plus grand des plaisirs et trouve un moyen d'en faire de l'argent. Et moi, tu vois, bah, je kiffe faire des vidéos, je kiffe partager avec les gens. J'ai toujours été sur les réseaux depuis que je suis au lycée. J'ai toujours aimé faire des stories, des posts, des machins, de la création de contenu. J'ai toujours aimé coacher mes amis quand je m'entraînais. J'ai toujours aimé m'entraîner et montrer mes entraînements. Et du coup, aujourd'hui, j'en fais une passion. Toi, de ton côté, c'est la même chose. Tu as en plus développé ta marque de
Exactement ça.
vêtements. Donc,
Et
en tout.
si je te demande, pardon, je te coupe, mais si je
Non,
te demande
vas-y.
aujourd'hui, si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Si l'argent, c'est pas un problème, en fait, tu ferais pas grand-chose de différent.
Eh
Peut-être que, peut-être que tu aurais un plus gros appart, peut-être que tu aurais voilà, des plus grosses voitures, tu mangerais peut-être dans des plus gros restos, mais en fait, tu ferais la même chose. Et moi, c'est pareil. Là, tu me dis, qu'est-ce que tu. On me l'a posé il y a pas longtemps, qu'est-ce que tu ferais? En fait, je ferais ce que je fais aujourd'hui.
à
Sauf
plus
que
grande
ça
échelle.
fonctionnerait mieux. Mais ouais, c'est ça, exactement.
Ouais,
Exactement. Et
ça.
c'est important.
Donc en tout cas, Irvine, merci beaucoup pour ce podcast. Je pense que ce ne sera pas le premier avec. Ce sera pas. Oh là là, le mec arrive plus à parler.
Si, c'est le premier.
Ce ne sera pas le dernier avec toi.
Non.
C'est très important de le noter pour nos chers auditeurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas posté de podcast. L'année 2023 a été quelque peu irrégulière, mais vous le comprendrez mieux avec mon annonce du prochain podcast et de la prochaine vidéo YouTube également. Les podcasts vont être de plus en plus réguliers, les épisodes solo, les épisodes duo. Il va non seulement y avoir de plus en plus d'invités en termes de quantité et de qualité aussi, parce qu'on va recevoir des gens où vous n'êtes pas prêts. Mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, ça reste de recevoir des amis, ça reste de recevoir des gens avec qui je m'entends bien, comme Irvine qui est juste là. Et surtout, qu'on puisse évoluer ensemble, parce que je pense qu'à chaque podcast qu'on refera, on aura tous les deux franchi des steps de malade.
Ça va
Et
être incroyable.
ça va être rigolo, jusqu'au moment de se retrouver dans une vraie salle physique avec les caméras et tout, ça va être très très
Voilà,
cool.
là-haut.
Et évidemment, je vais, comme la tradition l'oblige sur mon podcast, te demander de nous dire, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les gens qui nous écoutent, un petit mot de la fin ou une citation, une recommandation, un livre, quoi que ce soit qui puisse aider les gens à devenir meilleurs, en faire plus?
En situation, tu sais très bien qui je citerais et je pourrais en citer plein, plein. Enfin, je pourrais en citer plein, mais je pense que je vais revenir sur le fait de confronter les choses. Sur le fait de confronter les choses. Et je vais écrire mon fond d'écran, mais tu la connais celle-là. C'est It just takes work, shitloads, shitloads of work. Every time I try and dress it up, cut a corner, I get brutally reminded. The work just needs doing. Maintenant, je reprends l'accent français. C'est de dire, peu importe ce que vous pensez, il y aura du travail à faire. Confrontez le travail, que ce soit faire une compétition de bodybuilding, que ce soit lancer votre podcast, parce que peut-être que vous n'êtes pas super sportif, ou peut-être que vous vous en foutez de la marque de vêtements, mais peut-être que vous voulez faire comme Lucas en lançant votre podcast. Et vous pouvez lui demander comment Lucas lance mon podcast. Mais confrontez-vous à la chose et confrontez-vous au travail, parce qu'il y en aura à faire. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur, je pense. Le stress nous fait devenir meilleur, il n'est pas poussé à son paroxysme. La résistance nous fait devenir meilleur. Encore une fois, si ce n'est pas de la mauvaise résistance. Mais je pense que c'est ça. Confrontez-vous aux choses qui vous font peur, parce que c'est comme ça que vous allez devenir meilleur et exploiter votre potentiel.
Waouh, ok, il a fait le meilleur outro que moi. Je vais vous laisser là-dessus. Je rajouterai rien parce que c'est parfait. Ça nécessite rien de plus. Prenez soin de vous, faites-en plus et gardez animée la flamme de la volonté. C'était Lucas et Irvine Félix, Irvine tiré du bas FLIX sur le podcast.
FLX.
FLX sur le podcast We Do More. Prenez soin de vous et faites-en plus.